Que faut-il manger pour vivre au mieux, pour faire du sport, avoir une bonne immunité, être en bonne santé? Et est-ce finalement qu'une question d'alimentation? Anthony Berthoud va nous expliquer comment remettre du bon sens dans notre assiette et notre vie. Allez, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Run, apiculteur passionné par la course à pied et amateur de longue distance qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous intéressons principalement ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons donc à la rencontre d'Anthony Berthoud. Anthony Berthoud est nutritionniste, ancien athlète de haut niveau en triathlon, il était nutritionniste aussi de plusieurs équipes olympiques. Il est l'auteur d'un livre que j'ai placé immédiatement dans les livres à avoir dans ma bibliothèque. Vraiment, c'est un livre très intéressant, je vous le recommande, vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode, bien entendu. Et ne vous laissez pas avoir par la couverture et le sous-titre « Ce que nous avons oublié de nos chasseurs-cueilleurs » avec un homme un petit peu préhistorique en couverture. Non, ce livre de près de 400 pages n'est pas un manuel d'alimentation paléo, mais un appel à retrouver du bon sens dans notre assiette à partir d'études, d'années de recherche qu'a fait Anthony Berthoud. Il va nous expliquer comment. Et c'est aussi un manuel pour remettre du bon sens dans notre vie, car nous avons aussi discuté des bienfaits d'une marge de quelques minutes, de l'importance du sommeil, du rythme circadien, de la lumière, des contaminants alimentaires aussi, des clés pour retrouver du bon sens dans l'assiette, mais globalement. Et puis vous allez voir aussi l'incroyable rôle des mitochondries. Allez, c'est parti. Et avant de vous laisser écouter ma discussion avec Anthony, je veux remercier Coro qui sponsorise cet épisode. Dans son livre, Anthony recommande de manger plus végétal, des aliments bruts, des céréales complètes, des légumineuses, des oléagineux pour vos collations, mais aussi de changer nos contenants alimentaires pour préférer ceux en verre. Ce sont quelques exemples de ce qu'il cite dans son livre. Vous pourrez acheter ses produits en ligne directement chez Coro, koro.fr, la boutique pour les passionnés de produits sains, y compris d'ailleurs pour des récipients et des bocaux. Oui, oui. Coro propose en effet plus de 1200 produits, la marque privilégie les emballages grand format pour éviter de consommer trop d'emballages plastiques et a opté pour un circuit commercial court entre le producteur et le consommateur quand c'est possible. Et pour vous aider dans votre budget, nous avons négocié avec eux une réduction sur toute la boutique. Il vous suffit de vous rendre sur la boutique Coro, koro.fr et utiliser le code HAPPYRUN5 pour en profiter. Je remercie tout particulièrement Coro de soutenir ce podcast et je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec Anthony. Allez, c'est parti. Bonjour Anthony.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu?
Eh ben, très bien, merci. Et toi?
Eh ben écoute, ça va très bien. Et puis alors là, on va parler d'un sujet qui que je trouve passionnant, vraiment, qui je pense qui est au cœur en plus des préoccupations déjà du podcast, des auditeurs, de plein de gens qui se posent plein de questions. Il faut dire qu'avec l'ouvrage que tu as sorti, ils ont, il y a de la lecture, hein. il y a de quoi creuser le sujet, il y a de quoi de... Je dis déjà aux gens, parce qu'en général, il y en a plein qui achètent les livres avant même d'être arrivé à la fin du podcast. Hein, ça arrive régulièrement. Donc là, je préviens quand même, hein, c'est un bon... alors, je ne sais pas, est-ce qu'on peut appeler ça un pavé, mais j'ai appelé ça un gros pavé dans une mare, en fait, de plein d'idées sur la nutrition, en fait.
Oui, ben, merci. L'expression est plutôt intéressante, effectivement, du gros pavé dans la mare. D'ailleurs, pour la petite info, celui que tu as entre les mains est la synthèse d'un autre qui va sortir là dans un gros mois maintenant, tout début juin, et qui lui fera près de trois fois la taille de celui que tu as entre les mains. Donc, ce sera un très gros pavé, celui-ci. Et les deux, en fait, traitent du même sujet, mais pas avec la même profondeur. Et quand tu parles de pavé dans la mare, c'est très intéressant parce que, effectivement, l'idée, c'est de poser à plat un certain nombre de sujets qui gravitent autour de la nutrition, voire du mode de vie de manière générale, pour les traiter avec le maximum d'objectivité. Alors, on ne l'est jamais, hein, bien entendu, mais en tout cas, mon but, c'était de mettre de côté mes propres croyances pour me baser sur la littérature scientifique et les données dont on disposait, pour essayer d'avoir le regard le plus neutre possible, mais surtout le plus systémique. Parce que malheureusement, la nutrition aujourd'hui, comme dans le domaine de la santé ou pas mal d'autres domaines, mais je parle de celui-ci parce que c'est celui que je connais le mieux, c'est qu'on a une vision très segmentée des choses. Et dès qu'on parle d'alimentation, on va parler d'émotion, on va parler bien sûr de nutrition au sens calorique du terme, on va parler parfois de micronutrition, on va parler d'écologie, on va parfois parler d'enjeux géopolitiques, etc. Donc on peut avoir un discours très cohérent pour un cadre, mais quand on associe les cadres entre eux et on essaie d'avoir une réponse la plus intégrative, la plus holistique possible. Là, on peut vite tomber dans une cacophonie, parfois avec des discours contradictoires. Donc, l'objet de ces deux livres, c'était vraiment d'essayer d'apporter le maximum de hauteur possible, voire de discernement sur ces sujets pour en proposer finalement un modèle le plus simple possible et surtout résilient au sens qui répond à ces différents enjeux, quoi.
Je me suis amusé tout à l'heure, j'ai regardé, et puis je l'ai encore sous les yeux, là, t'as des matières. Si on faisait une sorte de bingo de toutes les mots qu'on entend dans la nutrition, sur, alors, je sais pas, parce qu'on a parlé un petit peu juste avant, mais quand on parle de cétogène, de tous les types de régimes, et enfin de plein de choses en fait, j'avais vu d'autres mots, etc. J'ai l'impression qu'en fait on les trouve. Alors, je dis pas qu'on trouve tout dans le bouquin, dans le livre, mais qu'on trouve, il y a beaucoup de thématiques il va venir sur beaucoup de thématiques. C'est-à-dire que, j'allais pas dire que toutes les questions qu'on se pose sur finalement, est-ce qu'il faut qu'on mange de telle ou telle manière, est-ce que le cétogène c'est bon, un bon truc ou pas, est-ce que, parce que ça parlait aussi, il y a le microbiote, il y a tout un tas de sujets. J'ai l'impression que vraiment, t'as tapé vraiment sur l'ensemble. Et nous, on est très attachés à justement la vision d'ensemble. On a fait des épisodes justement sur les problèmes du réductionnisme, en disant si on se concentre que sur un aspect, on loupe une grande partie. Mais là, j'ai envie de dire, celui qui se pose vraiment des questions, il a vraiment de quoi creuser, parce que ça, il y a vraiment tout l'ensemble. Parce que tu parles aussi de système immunitaire, tu parles vraiment de l'ensemble complet de ce qui est lié à la nutrition, quoi.
Oui, merci déjà pour cette vision, parce que c'est le but du livre. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à en accoucher, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est un livre qui m'a demandé quasiment 10 ans d'écriture, alors surtout sur celui qui va suivre, qui est la version plus scientifique et plus développée que celui qui est déjà sorti, mais qui fait quand même un peu plus de 400 pages. Il y a 2000 publications associées. Sur l'autre, il y en a plus de 10 000. Donc c'est effectivement un travail de fourmi sur les sujets que tu évoques, parce que encore une fois, chacun peut parfois avoir son intérêt en fonction de l'indication, en fonction d'un contexte particulier. Mais quand on s'intéresse à chacun de ces éléments de manière isolée, c'est ce que je disais tout à l'heure, on finit par en perdre un petit peu son latin, y compris en tant que professionnel de santé, voire la nutrition parfois. Et c'est vrai que alors moi, c'est un sujet qui me passionne depuis près de 30 ans. Donc ça fait longtemps que je suis dedans en tant que tel, 20 ans à titre professionnel. Et aujourd'hui, la plupart de mon activité, elle est dédiée justement à l'enseignement et à la formation des professionnels. Donc forcément, ces sujets qui sont traités dans le livre sont aussi des sujets qu'on aborde en formation, en détail. Et c'est beaucoup d'énergie pour essayer de les rassembler. Mais pour moi, c'est un peu ce qui me manquait. En tout cas, c'est la pierre que je voulais apporter de mon côté à l'édifice, quoi. C'est-à-dire essayer d'avoir cette vision la plus systémique possible. Et sans peut-être digresser ou autre, j'ai eu dans mon parcours un vrai virage à 180 degrés sur la nutrition. Alors, je pense souvent de trois révolutions nutritionnelles, mais une en particulier, qui a été lorsque j'ai commencé à enseigner à l'EPFL, donc à l'École Polytechnique de Lausanne, sur les enjeux mondiaux de l'alimentation, les projections 2050. Et c'est vrai que là, j'ai pris une douche froide sur toutes les données de littérature vis-à-vis du contexte climatique qu'on connaît tous de plus en plus au niveau médiatique. Mais il y a une dizaine d'années, on en parlait encore relativement peu. Et j'ai connu cette fameuse éco-anxiété et autres, et ça m'a amené à prendre beaucoup de recul sur les discours nutritionnels, les recommandations qu'on pouvait proposer, même à titre de professionnel, dans un cadre thérapeutique ou de sport, si on parle de nutrition du sport. Parce que finalement, la priorité de fond, elle est de proposer un modèle alimentaire qui est tenable dans le temps, c'est-à-dire à moyen et à long terme, sur une approche collective, donc qui peut paraître abstraite parfois pour beaucoup, et c'est logique, plus qu'une logique simplement individuelle de santé, même si les deux sont importants. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu un parcours avant tout orienté justement sur un axe et thérapeutique et individuel, et là il fallait que j'envisage les choses de manière beaucoup plus transverse et systémique. Sur Je parlais de géopolitique tout à l'heure, d'écologie et autres. Et c'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, même en termes de santé publique, on n'a pas une recommandation ou une approche globale. C'est-à-dire que tu as une approche toxicologique sur la part des contaminants dont on parle très peu malheureusement dans le monde de l'aliment et de la nutrition. Il y a une part qui est écologique, il y a une part qui est nutritionnelle. Mais je dis tout le temps, quand tu es dans ton assiette, tu vas pas manger des nutriments, tu vas pas t'intoxiquer plus ou moins à certains contaminants, tu vas pas avoir une démarche écologique. En fait, quand tu croques dans ta pomme, tu considères tous ces éléments-là. Et ce qui est juste incroyable en termes de recommandations, encore une fois, de santé publique, je parle même pas à l'échelle individuelle, c'est que on a des experts extrêmement compétents dans chacun de ces segments, mais on n'a pas une convergence des données pour en faire émerger en fait un modèle universel, ne serait-ce qu'en termes de recommandations. Pour moi, il y a des vraies questions à se poser sur ce sujet-là, si on a un regard un peu plus orienté sur le long terme, plus que sur la vision très court terme, mais y compris dans le monde de la nutrition du sport d'ailleurs, parce que c'est un peu notre sujet qui nous rassemble, mais autour du podcast, mais on pourra en parler si tu le souhaites, mais c'est en fait essayer d'apporter sur un sujet qui peut paraître non pas complexe ni systémique un maximum de simplicité, et pour ça demande d'aller creuser en détail effectivement toute une série de thématiques qui sont médiatisées, qui sont parfois à la mode, qui sont sacralisées pour certains, qui vont avoir des discours dithyrambiques sur tel ou tel modèle alimentaire, et forcément ça donne envie de croire dans ces modèles-là. Plus on est dans une logique miracle, plus on nous promet monts et merveilles vis-à-vis d'un modèle, et plus on va y adhérer, comme dans le matériel, si on parle du sport, etc. Moi, je dis souvent que c'est la nature humaine qui est comme ça. Je suis pas expert pour ça, mais c'est un peu ma vision des choses. C'est-à-dire que on a envie de croire dans tout ce qui est un miracle, mais l'alimentation, c'est déjà la base, hein. C'est ce qui nous constitue, et j'en parle beaucoup dans le livre, quand on regarde un petit peu les choses de manière évolutionniste. On a évolué au cours du temps. Si on prend Homo sapiens, en 300, 500 000 ans, si on parle des hominidés, c'est en l'espace de quelques millions d'années. Si on parle des eucaryotes, c'est 2 milliards d'années. Si on parle de la vie, c'est potentiellement 4 milliards d'années. Donc, en fait, on a aujourd'hui des discours très, très, très isolés, très court-termistes. Et en fait, on en oublie ce pourquoi on est programmé, parfois génétiquement, c'est-à-dire manger des produits qui sont bruts, qui sont sur des saisons, qui sont sans intrants ou avec le minimum d'intrants possible. Et par rapport à la nutrition du sport, je dis souvent que l'approche de la gestion de l'effort, avant, pendant, après l'effort, en compétition, etc., c'est la cerise sur le gâteau, et c'est pas le gâteau sur la cerise. C'est-à-dire que le sportif, et moi le premier, hein, ça a été mon premier regard historique sur ça, c'était de se dire, bah oui, qu'est-ce que je vais manger pour me préparer à un triathlon ou un marathon, qu'est-ce que je vais prendre pour éviter l'hypoglycémie, les troubles digestifs, etc. Et c'est une condition qui est nécessaire, mais qui n'est pas suffisante. C'est-à-dire que c'est très bien de s'intéresser à ces enjeux pour une compétition, mais si à la base, tu es pas adapté au sens physiologique, c'est-à-dire que t'as pas répondu favorablement aux adaptations que tu as attendues de l'entraînement pendant des semaines, des mois et des années, tu pourras pas être performant. Et c'est là que la nutrition joue un rôle fondamental, même si ça fait parfois moins rêver de parler de fruits et de légumes, de légumineuses, de oléagineux que de gel rouge, vert, jaune ou de boissons plus miracles les unes que les autres, quoi. Je le caricature un peu, mais malheureusement, on en est parfois un peu là, quoi.
Oui, mais alors ça, c'est un truc que j'ai dit il y a pas longtemps dans un réel, notamment sur Instagram, où je disais que finalement, il y a des choses qui sont pas très vendeuses, comme manger équilibré, en fait. C'était une réflexion qu'on avait avec Julien Scanzi aussi sur l'épisode sur le microbiote, mais on l'a eu aussi avec, quand on a parlé des protéines, le culte des protéines chez les sportifs et les sources de protéines et finalement leur impact écologique dont on se rend pas compte, mais aussi le marketing qui va derrière, parce que dans le livre, tu en parles justement aussi du fait que finalement l'industrie et le marketing et les entreprises sont venues s'immiscer dans nos assiettes d'une manière qui est vraiment très importante, aussi dans les études scientifiques aussi, hein, de certaines études avec des lobbies, avec des choses comme ça. On a toutes ces questions qui se posent dedans, et notamment parce que ça fait tellement bruit le fameux documentaire Game Changers quand il est sorti sur Netflix. Il faut quand même pas oublier que derrière, il y avait un parti pris qui était de dire manger de la protéine de poids. Bon, au passage, on vous les vend, mais c'est vrai que on a ce syndrome un peu de l'objet qui brille, le dernier truc, la dernière mode, le truc qui a l'air tellement efficace. On se dit, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Et puis, d'un autre côté, comme tu disais, on se rend pas compte qu'on est dans à l'échelle du monde, de l'humanité, on est dans un temps qui est vraiment super court, quoi. C'est fou d'avoir des visions tellement arrêtées sur des choses alors que qu'on vient de découvrir, alors que pourtant l'histoire nous montre que ben on a mis du temps pour arriver à qui nous sommes.
Oui, tout à fait. Alors, ça s'explique d'un point de vue neurobiologique, en tout cas une des hypothèses, c'est de considérer que on est avant tout programmé pour et fuir le danger, pour éviter le danger, donc d'être dans des contraintes qui sont individuelles, court terme, immédiates et concrètes. Et quand on parle notamment d'écologie, on est dans une approche qui est systémique, qui est à long terme, abstraite, collective. Donc c'est vrai que d'un point de vue cognitif, c'est pas du tout la même approche et ça peut demander beaucoup d'efforts. Après, sur la notion d'évolution, c'est vrai qu'en l'espace de quelques décennies, moi je parle souvent de tsunami nutritionnel, c'est-à-dire qu'on a complètement bouleversé et notre mode de vie. On pourra en parler aussi si on veut digresser un peu de la nutrition, mais que ce soit par rapport à l'activité physique, à la gestion du sommeil, à la gestion du stress, l'exposition à la lumière naturelle, qui est un facteur extrêmement important qu'on sous-estime beaucoup aujourd'hui, et bien sûr l'alimentation. Et tu parlais des aliments ultra transformés ou autres. Effectivement, c'est des quand on regarde à l'échelle du vivant, en fait, que ces aliments-là ne soient pas adaptés, c'est juste du bon sens. Et je donne souvent en exemple une étude que j'avais beaucoup aimée, qui est sortie il y a un peu plus de 2 ans maintenant, c'était en début 2020, enfin 3 ans même quasiment, c'était en juin je crois 2020 mémoire, dans Nature Food, qui montrait, en fait les auteurs parlaient de la part sombre de l'alimentation, j'aimais beaucoup cette expression, parce qu'ils s'étaient amusés à regarder le nombre de composés qui étaient identifiés aujourd'hui dans les fruits et les légumes, et associés à un effet biologique, voire thérapeutique particulier. La quercétine, le resvératrol, etc. La hyoscine de l'ail. Et donc, ils en avaient quantifié comme ça à peu près 150, ce qui est déjà énorme. Sauf que quand ils regardaient les bases de données internationales qui étaient disponibles, en termes de métabolites végétaux, on avait plus de 49 000 principes actifs qui avaient été identifiés, mais non corrélés à un effet particulier. Ce à quoi se rajoutaient, en fait, les interactions. Et quand tu parlais tout à l'heure de réductionnisme, c'est-à-dire on a complètement occulté, et encore aujourd'hui pour certains, l'importance de la matrice alimentaire, c'est-à-dire de l'organisation structurelle du fruit, de la tomate, de la carotte, en fait de l'aliment. Et cette organisation, elle a un impact sur la vitesse d'assimilation, sur la biodisponibilité, sur des fois des effets d'agonisme ou d'antagonisme entre des minéraux, des composés entre eux, qui est loin d'être anodine. Et en fait, quand on regarde juste d'un point de vue mathématique ou quantitatif la teneur de tel ou tel micronutriment, ça c'est complètement occulté. Et si on y rajoute un autre facteur qui est l'épigénétique, c'est-à-dire l'effet de l'environnement sur l'expression de nos gènes, et donc l'effet de certains de ces principes actifs sur la modulation de nos gènes en fonction de notre prédisposition, et on se rend compte d'une chose, c'est que s'il y a une conclusion, c'est notre besoin d'humilité. On connaît très 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 peu de choses aujourd'hui, et moi le premier, de tout ça. Donc, en fait, de se dire tel aliment est bon pour la santé sous prétexte qu'il a telle quantité de macronutriments, voire même de micronutriments, parce que la micronutrition est tombée exactement dans le même travers allopathique symptomatique que le médicament parfois, alors qu'on a tendance à les opposer. Et oui, effectivement, les micronutriments jouent des rôles essentiels, mais si le but c'est de les concentrer dans une gélule et d'avoir un effet parfois pharmacologique, on s'éloigne complètement de l'effet de ce nutriment isolé dans l'aliment, et de deux, l'interaction de ce nutriment avec tous les autres qui sont présents dans l'aliment. Donc on a un grand écart, même scientifique en fait, qui fait qu'on peut pas associer les deux. Et donc ça nous amène vraiment à beaucoup d'humilité. Et bon, voilà. Je pourrais discuter longtemps de ça, mais je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ou ta remarque à ce niveau-là, mais.
Si, c'est intéressant parce qu'on avait fait aussi des épisodes avec Anthony Fardet justement sur la fameuse matrice et puis sur bah, sa règle des 3V, le manger vrai, manger végétal, manger
Varié.
de se varier, manger de saison, tout ça, qu'on retrouve hein, d'une manière ou d'une autre aussi dans une approche en se disant bah, parce que finalement, enfin, le titre du livre c'est Du bon sens dans notre assiette, ce que nous avons oublié nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Eux, bon, ils n'avaient pas de frigo. Il y avait enfin, il y a un
Ils n'avaient même
environnement
pas de
dans lequel ils
sel.
baignent
Ils
en
n'avaient même
fait.
pas de sel à l'époque. Ouais. Pardon.
Donc, ils avaient une certaine une approche. On peut se dire, le progrès nous a permis d'avoir plein de choses, d'avoir accès à plein de choses, de conserver les choses, de faire venir des choses du monde entier, de connaître plein plein de trucs. Mais ça ferait un peu vieux grincheux peut-être de dire ça. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle en fait?
Ben c'est une très bonne remarque. Et puis le sous-titre, il se veut pas provocateur, mais en tout cas, il se veut pas nostalgique de se dire c'était mieux avant et refaisons ce qu'on fait avant parce qu'aujourd'hui c'est mauvais. C'est juste de se poser la question de ce pourquoi on est programmé d'un point de vue biologique, à quelle échelle de temps en fait les adaptations se sont mises en place dans quelle mesure. Notre mode de vie aujourd'hui est peu cohérent, voire incohérent avec ces adaptations. Et effectivement, bah, je disais tout à l'heure, si on parle de l'apparition des eucaryotes, donc c'est-à-dire quand les mitochondries ont commencé à prendre leur place au niveau cellulaire, et ça a été une révolution nutritionnelle, bah, pas nutritionnelle un peu, mais surtout biologique majeure, c'est ce qui a fait un bond considérable dans notre évolution. Encore une fois, on est à 2 milliards d'années. Quand on parle des chasseurs-cueilleurs, le paléolithique, qui s'étale sur plusieurs centaines de milliers d'années. Et effectivement, alors on n'avait pas de frigo, comme tu disais bien. Je disais, on n'avait pas de sel parce que, par exemple, en termes de conservation, le sel est apparu très tardivement. Alors, il y a des hypothèses, notamment près des océans ou autres, où on aurait justement su utiliser un petit peu le sel à ce niveau-là, mais je faisais la digression par rapport à la notion de conservation, c'est-à-dire que on mangeait, ou nos ancêtres mangeaient ce qu'ils avaient à disposition, ce qu'ils trouvaient, et avec une énergie parfois très importante pour accéder à cette alimentation. Donc le coût énergétique de l'accès à l'alimentation était loin d'être anodin. Et d'ailleurs, il y a tout un pan de théories évolutionnistes autour de ça qui sont très intéressantes sur la place de ce qu'on appelle l'effet Hormèse, c'est-à-dire du stress sur l'adaptation. C'est-à-dire qu'en gros, l'adaptation se met en place parce que on va venir stresser le fonctionnement cellulaire. Et si ce stress est bien quantifié, il est local, il est contrôlé, il va créer des adaptations qui vont être positives à long terme. C'est le propre de la performance quand on parle du sport, hein. C'est quand on fait des entraînements, on n'a qu'un but, c'est d'être masochiste au niveau biologique, c'est-à-dire d'aller se stresser pour créer des adaptations qui vont nous être positives à moyen et long terme. Et on a notamment les théories de Mattson, de Noakes aussi, qui est venu se greffer un peu plus récemment sur ces notions, qui expliquent qu'on a, en fait, en absence de prise alimentaire, donc en période de jeûne, et de mouvements musculaires. En fait, Mattson donne l'exemple du lion affamé en disant que il y a jamais aucun animal qui a été aussi performant que quand il est affamé pour aller chercher à manger. Et c'est vrai. Et là, on va pas se poser la question de savoir est-ce que j'ai pris un petit déj, est-ce que voilà, j'ai suffisamment digéré 3 heures avant ou pas. Donc bon, on est dans un principe de survie, mais ces principes extrêmes, en fait, on crée des stress qui ont notamment, je pense au BDNF, par exemple, qui est un facteur neurotrophique qui a possiblement contribué au développement cérébral. Quand on fait du sport, en fait, on crée une production de ce qu'on appelle des exerkines, c'est-à-dire de plein de molécules dans les différents organes qui ont un but d'adaptation. Et en fait, quand on est en absence de prise alimentaire, notamment de jeûne, on va accentuer ces phénomènes-là, voire on va en produire d'autres. Et c'est très intéressant parce que si on le rapporte à notre modèle de vie aujourd'hui, on a toujours peur d'être en manque, on a toujours peur de tomber en hypoglycémie, etc. Et c'est vrai que si tu regardes les choses à court terme dans le cadre de la performance, une hypoglycémie sur un marathon, ça va être plus que délétère, c'est évident. Maintenant, rapporté à l'échelle du temps et de l'adaptation, bah finalement, la répétition de ces épisodes peut amener aussi à devenir plus performant. Et sans cette vieux grincheux comme tu le disais tout à l'heure, c'est aujourd'hui on a créé une société de confort en fait à plein de niveaux et c'est très positif pour énormément de facteurs. C'est là où il s'agit pas du tout d'être nostalgique, mais en fait une des conséquences de ça, c'est que on ne se met plus en stress biologique où on crée des adaptations qui là créent des stress plus profonds et on n'a plus de stress aigu au sens où la plupart d'entre nous on mange à notre faim et c'est parfait. On va plus besoin on n'a plus avoir besoin de bouger parce que on travaille derrière un ordinateur à longueur de journée, on a nos voitures, etc. Donc on n'est plus dans le besoin du mouvement. On a des stress qui ne sont plus aigus et majeurs parce que on risque pas de mourir en sortant de, alors on peut, hein, en sortant de la rue, mais le risque est beaucoup moins important que quand on se faisait chasser par un mammouth ou je ne sais quoi. Donc, à l'inverse, on est dans un stress qui est devenu chronique, lancinant, épuisant, d'où l'apparition des burn-out et compagnie. Donc, en fait, on crée des adaptations qui sont différentes, comme on est dans des boîtes, des maisons, des voitures, etc. On vit plus à l'extérieur. Et il faut pas oublier qu'on est des animaux diurnes, c'est-à-dire qu'on est fait pour bouger le jour et pour dormir la nuit, et que on est synchronisé sur un rythme biologique majeur qui s'appelle le rythme circadien sur 24 heures en fonction de la rotation de la Terre, etc. Qui fait que ce rythme biologique lui-même, il va créer des rythmes sur nos hormones, donc notre système immunitaire, sur notre faim, sur un certain nombre d'éléments. Et donc, en fait, quand on se désynchronise, c'est très simpliste à la limite, hein, quand je dis ça, mais quand on se désynchronise de notre rythme circadien, on crée des adaptations métaboliques considérables. Et un exemple qui est assez révélateur pour ça, c'est les personnes qui travaillent en horaire décalé. Une des premières conséquences, c'est l'insuline non résistance, donc l'augmentation des risques de diabète, maladie cardiovasculaire, d'obésité. Et la seule solution pour contrer ça, c'est de changer de boulot. C'est-à-dire que on peut bricoler, on peut donner des conseils, mais on va pas inverser un processus qui est inhérent en fait à notre espèce et qui existe depuis des dizaines de millions d'années, pour pas dire milliards d'années, sur cette notion de rythme biologique. Donc en fait, c'est là où on voit le décalage en fait avec du bon sens. C'est-à-dire que il s'agit pas d'aller redevenir chasseur, dormir dehors et d'avoir faim tout le temps, mais juste de se dire est-ce que je peux dans la société de 2023 simplement mettre en place des petites choses qui sont finalement cohérentes, en tout cas pour moi, et qui sont de manger des produits qui sont bruts, de saison, locaux, sur des circuits courts, avec le moins d'intrants possible, de bouger, de faire du sport. Et je pense que tu as dû en parler sans doute dans un de tes podcasts, mais on parle beaucoup aujourd'hui des sportifs sédentaires. Et en fait, la distinction entre la sédentarité et le manque d'activité physique, et ça, c'est pareil, en termes de désadaptation, c'est une catastrophe qui est très rapide, en fait. Donc, le simple fait de bouger toutes les 25-30 minutes, d'être à l'extérieur, et on parle beaucoup des déficits aujourd'hui en vitamine D, et tout le monde est un peu catastrophé de ça et autres, ce n'est que logique, parce qu'on ne vit plus à l'extérieur, on ne travaille plus à l'extérieur. Et la vitamine D, pour moi, est beaucoup plus une hormone qu'une vitamine, parce qu'elle est synthétisée par l'organisme à partir de certaines longueurs d'onde des UV du soleil, et qu'effectivement, c'est pas dans l'alimentation qu'on va aller combler le besoin en vitamine D. Donc, de dire à quelqu'un, je mangeais plus de saumon, de poisson gras, de jaune d'œuf, etc., parce qu'il y a de la vitamine D, ok, ça va contribuer partiellement au besoin, mais le sujet de fond est pas de se dire, je dois prendre une goutte de 2000 ou 3000 UI par jour de vitamine D pour combler mon déficit. C'est de me dire, dans quelle mesure je peux bouger suffisamment à l'extérieur. Et on pourrait parler aussi de la lumière bleue, des longueurs d'onde bleues voilà, vis-à-vis des écrans, qui sont en fait des longueurs d'onde très spécifiques qui viennent stimuler certains récepteurs au niveau de la photorécepteur, au niveau de la rétine, qui est juste en train de nous dire que c'est plein jour. Donc en fait, quand on est à 10h, 22h devant un smartphone, un écran, notre cerveau comprend que c'est le jour. Et le jour, on est en train de lui faire comprendre que on n'est pas dans l'obscurité, mais on n'a pas suffisamment de luminosité, même en étant derrière des baies vitrées, parce qu'on est à l'intérieur et on n'est pas suffisamment à l'extérieur. Donc en fait, cette désadaptation crée des complications que la littérature scientifique nous expose de plus en plus sur les risques de maladies neurodégénératives. Je parlais des maladies métaboliques, des maladies auto-immunes, tout ce qu'on appelle aujourd'hui les maladies de civilisation, qui sont juste des conséquences logiques de notre mode de vie. Et en fait, en revenant à ce bon sens, déjà, on ferait un sacré travail de fond pour notre santé et pour notre performance, si on parle du sportif en l'occurrence. Et là, on n'est même pas encore à l'étape de manger cétogène, d'éviter les protéines de lait, d'être flexitarien ou autre. On peut aborder tous ces sujets après, si tu veux. Mais le premier bon sens, pour moi, il est là. Et malheureusement, aujourd'hui, comme on s'expose plus au froid, à la chaleur, on a du chauffage d'hiver, même s'il coûte de plus en plus cher, on a de la clim l'été, etc. Et en fait, ces stress thermiques sont extrêmement importants pour l'adaptation mitochondriale. Et aujourd'hui, là aussi, c'est un facteur de désadaptation assez important, quoi. Donc tout ça, le tout cumulé fait que finalement, c'est pour ça qu'on a certains auteurs comme Eaton ou Cordain et autres qui parlaient de mismatch hypothèses, c'est-à-dire les maladies de la désadaptation évolutive, et j'aime beaucoup ce terme-là. C'est pas la traduction, c'est moi qui traduis comme ça, mais qui est de se dire que finalement, tout ce qui nous a adapté au cours du temps et nous a permis d'évoluer se retourne un petit peu contre nous aujourd'hui dans le mode de vie qu'on a impulsé depuis moins d'un siècle. Et c'est logique, en fait.
Bon, tous ceux qui écoutent Kilomètre 42, Sport Nutrition, mes podcasts, savent que ces thématiques-là, on en a parlé beaucoup. Parce que moi-même, en fait, j'en étais victime de cette fameuse sédentarité. C'est-à-dire que pour ceux qui le savent, mais enfin ceux qui écoutent le savent, moi, je courais tous les jours. Et en fait, je me suis pas rendu compte qu'à un moment donné, j'avais des douleurs qui étaient dues au fait que même en courant tous les jours, j'étais sédentaire. Et quand j'ai fait le bilan de ma sédentarité, j'ai dit, mais oh, le temps que je passe assis sur ma chaise, comme disait Nathalie Simon, on n'est pas des cupettes, on n'est pas fait pour être assis sur notre cul toute la journée. Et il y a un moment donné, donc on a fait des épisodes de la Minute Perf aussi avec Laure, on a parlé de la sédentarité, on l'a rediffusé il n'y a pas longtemps parce que c'était vraiment important de dire justement ces petites pauses de 30 minutes. Moi, j'ai revu mon rythme, mon organisation, j'ai revu le fait de me lever, le fait d'avoir déjà un bureau debout, tu vois, de faire des choses comme ça, de sortir, de... Il y a des gens qui disent, des fois, ils me disent, mais t'es dehors, tu marches 1 heure, tu cours 1 heure, tu fais du vélo, etc. Et ils sont presque inquiets, en fait, de savoir, mais t'es pas fatigué? Et je leur dis, non, mais depuis que j'ai trouvé ce rythme qui est moins sédentaire, mes douleurs ont disparu. En fait, j'avais mal au dos, j'avais une hernie, j'ai des sciatiques, j'avais des courbatures, des sortes de courbatures. On se rendait compte que c'était la vitamine D, donc j'ai eu des trucs de vitamine D en permanence. Enfin, il y avait un moment donné, en fait, où et puis alors je remercie d'ailleurs, c'est un kiné, je vais le dire, ostéo, c'est Thomas Laure Blanchet, qui me dit, mais il me dit, ton problème, en fait, c'est la sédentarité. Il va falloir que tu bouges plus à un moment donné. Alors, ça retombait après une opération, mon opération du genou, où là, vraiment, j'étais contraint de pas trop bouger. Mais le moment où je me suis rendu compte de ça, en fait, ça m'a changé. Mais toute mon organisation, tout ce qui est en train de changer, et je me rends compte à quel point c'est important. Et tu parlais du sommeil. Le jour où j'ai lu aussi le livre, comment il s'appelle, Pourquoi nous dormons, enfin, qui est traduit en français sur Pourquoi nous dormons, qui explique tout l'impact, hein, de la lumière, où ça passe, comment ça fonctionne, etc. Je me dis, on a plein d'infos, on a plein d'études, on a plein, plein, plein de choses. Et pourtant, sur Internet, encore, là, tu vois, l'autre jour, on regardait un gars, il dit, dormez que 4 heures, ça suffit. Un autre, il dit, mangez que des patates. Un autre, il dit, et d'un autre, ils vont dire, trempez-vous dans le froid. Alors après, bien sûr, on a fait des épisodes sur le sujet, la respiration, etc. Mais c'est toujours pris un peu séparément, toutes ces histoires-là, en fait. Pour ça, tout à l'heure, on disait, on parlait de réductionnisme, etc., mais... L'approche vraiment globale, à part dans quelques documentaires et qui passe un peu pour des illuminés en plus, hein, des fois de temps en temps, on a du mal à la voir quand même parce que on a l'impression que le changement est peut-être un peu trop énorme à faire, que même la société nous empêche un peu de le faire. Des fois, je dis, on est dans une société où il faudrait presque mettre un peu de côté pour arriver à vraiment vivre comme il faudrait vivre.
Ouais, bah c'est le sujet de fond, hein. C'est dans quelle mesure la société dans laquelle on est aujourd'hui est adaptée à ces besoins dont on parle. Ou après, on peut inverser la question aussi, mais en tout cas, quand tu parles de cette vision un peu isolée, de chaque facteur sur l'hypoxie par le froid, bah les bains froids, sur l'adaptation à la chaleur, sur le jeûne, sur la notion de lumière, d'activité physique. Tout ça converge malgré tout vers un point commun qui est ce que je citais tout à l'heure, qui est la mitochondrie. C'est-à-dire que moi, c'est un peu mon dada biologique et je l'ai vraiment exploré en détail et j'en parle beaucoup d'ailleurs dans le livre et dans l'autre encore plus. Mais c'est de voir que c'est quand même un organite qui est extraordinaire en termes de... Moi, j'appelle ça le hub biologique. C'est-à-dire, c'est un centralisateur, un coordinateur incroyable de tous les stimuli qu'on évoque tout à l'heure. Et alors, on le sait par rapport aux nutriments. Si tu manges des graisses, des protéines, des glucides, etc., ton adaptation mitochondriale va pas être la même. Et c'est toutes les, pas toutes, mais une partie des théories qu'on a sur aujourd'hui. Est-ce qu'il faut manger cétogène chez le sportif d'endurance? Est-ce qu'au contraire, il faut être sur un modèle hyperlucidique, si t'es cétogène, tu te désadaptes sur certaines filières, inversement. Et effectivement, et tout ça, ça se comprend quand c'est isolé. Et on pourra parler aussi peut-être là-dessus des marqueurs génétiques qu'on commence à utiliser sur notamment les ApoE pour voir que, en fait, en fonction de notre génétique, on a une prédisposition plus ou moins forte à manger, par exemple, cétogène ou manger glucidique. Mais si je mets ça de côté, je reviens à la mitochondrie, c'est elle qui va être le chef d'orchestre, en fait, en fonction des types de nutriments qu'on va avoir. Sur la lumière, on parlait de la lumière bleue, et en fait, sa capacité de venir inhiber la mélatonine, qui est l'hormone de l'induction du sommeil, qui est directement... pas métabolisé, mais en tout cas qui est coordonné par l'activité de la mitochondrie. Sur la mitochondrie, on a ce qu'on appelle la cytochrome C oxydase, c'est-à-dire des photorécepteurs à la lumière rouge ou proche infrarouge. Donc c'est juste incroyable quand tu penses qu'on a en moyenne 300 à 400 mitochondries par cellule. Après, c'est très variable en fonction du type cellulaire. Donc tu multiplies par quelques dizaines de milliers de milliards. Donc ça fait un certain nombre de mitochondries qui en fait qui sont réceptives à la lumière naturelle. Et donc quand tu dis quand tu parles de sédentarité et ton exemple à très juste titre, ben, en fait en disant à quelqu'un va marcher une demi-heure dehors, et ben marcher une demi-heure, ça veut dire que il y aura du mouvement musculaire, donc il y aura un stress mitochondrial, il y aura une exposition à la lumière, il y aura effectivement du coup une synthèse de vitamine D. Alors en fonction de la saison, bon, on peut en discuter après des nuances à ce niveau-là, mais de manière générale, on aura cette synthèse, on aura une oxygénation qui sera pas la même, on va réguler davantage l'appétit. En fait, on va mettre en branle toute une cascade de réactions qui sont là aussi notre bon sens biologique. Et ça, c'est formidable parce qu'en fait, on voit que on n'a pas besoin de grand chose. Par contre, et comme tu le disais très bien, ça demande de se poser à un moment donné par rapport à son mode de vie et de se dire est-ce que je suis vraiment dans un fonctionnement qui est cohérent avec ma santé. Et c'est, tu parlais de Thomas tout à l'heure, je salue au passage, et je pense aussi à Christophe Malardet qui parlait beaucoup de cette expression des sportifs sédentaires et pendant le confinement qui avait donné un challenge de faire 20 minutes de prépa physique ou autre par jour pendant, je crois, 100 jours. Et je me rappelle d'une anecdote qu'il avait donnée à ce niveau-là en précisant que si on n'était pas capable de se donner 20 minutes par jour sur ces exercices-là, c'est qu'il y avait un vrai problème sur notre mode de vie. Et j'ai trouvé ça tellement pertinent, c'est pour ça que je me permets de le citer, parce que c'est exactement la même chose sur l'alimentation. Aujourd'hui, on dit j'ai plus le temps de cuisiner, etc. Alors, il y a aucun aspect moralisateur derrière ça, parce qu'effectivement, on est dans un modèle sociétal où on n'a plus le temps de rien. On a nos transports, on a le stress du travail, etc., qui fait que on peut ne plus du tout effectivement avoir de temps ni pour bouger, ni pour cuisiner, et parfois même pour manger. C'est-à-dire que le temps minimum pour déclencher de la satiété au niveau de la mastication, c'est 20 minutes. Donc en fait, si on est sportif, on va faire notre entraînement de natation, notre sortie à pied entre midi et deux, etc., parce que c'est le seul moment où on peut le faire et qu'on avale un sandwich ou un plat en 5 minutes derrière, eh ben, on va finir le sandwich, on va finir le plat par convention, parce qu'on l'a rempli à telle hauteur au niveau du tupperware le matin, mais absolument pas par un phénomène de régulation biologique de notre sensation de faim. Donc, c'est des vrais sujets de fond, comme pour l'approche écologique, hein, on est exactement dans les mêmes aspects, c'est de se dire, bah, en fait, jusqu'où je suis prêt à aller dans mon mode de vie pour redéfinir des priorités par rapport à ma santé, voire à la biologie. Et c'est pas simple parce qu'aujourd'hui, on est souvent à l'opposé de ça. Donc, ça demande un effort avec un, pas parler de disruption, mais en tout cas, une rupture très forte. Et c'est vrai que des fois, la stratégie des petits pas est souvent la plus adaptée, parce que forcément, si on regarde l'Everest du haut, ça peut paraître insurmontable. Maintenant, si on se dit juste, voilà, je mets un pas devant l'autre et petit à petit, je vais créer des adaptations qui font que je vais évoluer de manière significative, on peut se retourner et se dire, après quelques années, voire quelques mois, bah ouais, j'ai fait quand même une sacrée évolution. Donc, je crois que ce qui est important, à mon sens, c'est de placer le curseur, en fait, de l'évolution, du changement, par rapport à ses propres capacités, ses propres contraintes, sa propre santé. Parce que là aussi, hein, de dire à quelqu'un de prendre des bains froids, de faire un jeûne, de faire X séances d'entraînement, etc., selon sa capacité initiale, et ben, le curseur du stress métabolique peut être beaucoup trop important. Ce fameux principe d'Hormèse qui fait que, en fait, le stress, il est dépendant non seulement du stimulus, mais il est dépendant de celui qui le reçoit et de sa santé. Et plus on est en pleine santé, plus on aura une amplitude de stress possible important, et moins on sera en bonne santé, et plus on devrait être progressif. Donc, il ne s'agit pas de faire une révolution directe, mais simplement une évolution par petits pas adaptée à chacun, quoi. Ça, je crois que c'est important, parce que ça peut vite faire peur comme discours si on écoute ça de manière assez brute, quoi, sans se dire comment je peux le mettre dans mon cadre personnel qui est mon mode de vie.
Mais c'est pour ça, moi, je dis, moi j'ai une philosophie qui s'appelle SAM, c'est sommeil, alimentation, mouvement, c'est mon truc que j'applique. Enfin, voilà, j'ai mes trois curseurs. Je me suis rendu compte de ça il y a quelques années, c'est ce qui m'a permis de perdre 30 kilos, hein, quand même, au final, reprendre le sport, de plus aller voir mon médecin. Bon, mis à part ces histoires là de sédentarité, j'ai compris que mon mouvement, le curseur était, il y avait un truc encore à faire évoluer dedans, mais c'est là où aussi on se rend compte de choses, parce que ma santé a tellement évolué, le moment où j'ai commencé à mieux manger, à dormir plus, à rééquilibrer, à commencer à bouger, et je parle même pas de sport, je parle juste de marche, en fait, hein. De descendre du bus plus tôt, de pas prendre le bus pour aller à certains endroits, de prendre un vélo, des trucs comme ça qui étaient basiques, où je me suis mis à enregistrer mes podcasts en marchant aussi à une époque, réfléchir en marchant, prendre tous mes appels téléphoniques en marchant, des choses qui paraissent rien comme ça dans le truc. Déjà, moi, l'impact était tellement énorme. Alors après, bien sûr, à force de creuser, on trouve toujours des nouveaux trucs pour optimiser, pour aller plus loin, pour trouver d'autres choses, etc. Mais c'est vrai que la stratégie des petits pas, on se rend compte qu'il y a des accélérateurs qui sont incroyables. Je reviens sur ce fameux livre sur pourquoi nous dormons, mais à un moment donné, il dit que le sommeil, quand on se rend compte qu'en dormant plus, c'est le meilleur des dopants et qu'il coûte rien. Mais on peut revenir sur l'histoire des 30 minutes de marche que tu as donné tout à l'heure comme exemple. C'est incroyable comme finalement ce qui paraît être un petit geste et 30 minutes sur une journée, le pourcentage, on l'avait calculé, je crois que c'était 3%, on a calculé de notre journée, ou 3-4%, c'est tellement faible, et pourtant l'impact, il est autre, il est sacrément important, quoi.
Tout à fait. Ah ouais. Bah, je n'ai même pas grand-chose à compléter sur ça, parce que je suis convaincu, je pense autant que toi, sur ces éléments-là, et déjà bravo pour toi, la démarche, quand tu parles d'avoir perdu 30 kilos et d'avoir initié, en fait, ce cercle vertueux, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que on voit qu'il y a des cercles vicieux de désadaptation, mais ce qui est incroyable, c'est aussi notre capacité de restaurer un état positif. Et je donne aussi parfois l'exemple de la voiture sur l'autoroute, où si on a un voyant rouge qui s'allume sur notre tableau de bord, en général, on va faire quoi? On va ralentir, on va s'arrêter, on va identifier la panne, on va faire appel à des panneurs si on n'est pas bricoleur, et on va repartir doucement et on va faire attention à ce qui se passe. Et malheureusement, aujourd'hui, en fait, on a un voyant rouge, puis deux, puis trois, puis quatre. En fait, on a un sapin de Noël parfois sur le tableau de bord. Et on roule à 150 parce qu'on se dit qu'on a perdu du temps à regarder les voyants rouges. Et à un moment donné, qu'il y ait une pièce de la voiture qui soit défaillante, que ce soit la courroie de distribution, le pneu, le moteur, etc., et ben, si on pousse un peu le trait, on peut le voir comme quelque chose de salvateur, parce qu'on est nous-mêmes pas capables de s'arrêter dans cette inertie ou cette cinétique qui fait que, à un moment donné, la maladie, elle est aussi là pour montrer qu'il y a une désadaptation telle qu'on n'est plus capable, en fait, de vivre dans ces conditions. Et c'est souvent la maladie, en fait, qui nous amène à revoir notre mode de vie. Ou là, toi, tu parlais de ta prise de poids, ou pour certains, ça a des troubles articulaires, etc. C'est-à-dire qu'il faut arriver au stade de la souffrance pour prendre conscience, et souvent, hein, pas tout le monde, et tant mieux pour ceux qui n'y sont pas passés par là. Mais après, quand on est passé par la maladie et autres, on voit les choses aussi, maladies ou des troubles divers, mais on voit les choses différemment parce que, en fait, on se rend compte que c'est très simpliste quand je vais dire ça. La santé, c'est juste la base de tout, et sans ça, on fait rien. Et quand on est sportif et que on a appris à bouger 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures parfois par jour pour des athlètes de haut niveau, et qu'on se retrouve alité pendant des mois et sans savoir si on va pouvoir refaire un mouvement et recourir, se dire à un moment donné je chausse des baskets pour aller courir 1 demi-heure, c'est un cadeau extraordinaire. Et en fait, on s'en rend d'autant plus compte qu'on en a été privé. Donc, c'est tout l'enjeu de se dire, est-ce qu'à titre préventif, en fait, j'arrive à changer ce mode de vie pour m'amener justement à profiter pleinement de ma santé tant qu'elle va bien, sans passer par l'étape de la maladie ou du trouble suffisamment profond. Et ça, c'est plus compliqué. Ça me fait penser souvent à l'opposition qu'on fait entre la médecine occidentale et chinoise, où on considère qu'un bon médecin chinois, c'est un médecin qui n'a pas de malade. C'est-à-dire que son job, c'est de garder les gens qui sont en bonne santé. Un bon médecin occidental, c'est celui qui a 6 mois d'attente, donc qui est là pour savoir traiter un patient malade. Et on est dans une approche de la médecine de la maladie. Et aujourd'hui, on n'apprend pas la médecine de la santé. Alors c'est un peu contradictoire quand je dis ça, mais c'est juste pour l'état d'esprit. Finalement, on n'apprend pas comment maintenir les gens en bonne santé. On apprend à traiter des patients malades. Et rien que sur ça, déjà, on peut se dire, on a quand même une marge de progression considérable. On sait traiter extraordinairement bien un certain nombre de pathologies. On est devenu de plus en plus expert sur la chirurgie, sur la biologie moléculaire, sur des mécanismes, voilà, qui sont très positifs, en fait, en termes d'avancée. Mais en fait, on regarde parfois pas simplement comment garder en bonne santé ce qu'on a d'acquis, quoi.
Mais alors j'ai pas le chiffre et donc je vais pas le donner, mais l'autre jour j'ai vu passer un chiffre sur le, parce qu'on parle beaucoup quand même du coût de la santé, de la sécurité sociale, les retraites, tous ces coûts-là et tout. Puis j'avais lu aussi un livre de John Sarno sur le lien entre le mental et les douleurs physiques et la souffrance, etc. qu'il y avait. Il donnait des chiffres aussi aux États-Unis qui montraient que le nombre de maladies qu'on pourrait éviter par des fois par prendre en compte certains mots qu'on peut avoir sur le mental, sur le stress, sur tout un tas de choses, c'est que en fait on dépense des sommes incroyables pour soigner tout un tas de maladies, compenser des arrêts maladie, tout un tas de choses comme ça, alors que en fait on a de l'autre côté, on pourrait se dire il faudrait, si on agissait plus, alors je sais pas si c'est plus haut, plus logiquement, je sais pas comment le dire, je sais pas quel moment et le mot choisir. On pourrait éviter plein de choses quand même. On pourrait éviter plein de situations aux gens, mais enfin, pourquoi on n'y arrive pas en fait? Est-ce qu'on peut y arriver? Oui, quand on sort un bouquin comme ça, je me dis quand même, on a l'espoir que d'arriver à changer quelque chose. Sinon, à quoi bon consacrer autant de temps sur faire de telles études, de telles recherches, parce que c'est un sacré travail de recherche. Mais franchement, on a l'impression qu'à un moment donné, on est en train. Mais c'est peut-être aussi le symbole du médecin de tout à l'heure, c'est de dire, bah finalement. On préfère soigner plutôt que d'essayer de revenir à des changements, prévention, etc., qui sont peut-être qu'on les juge d'ailleurs trop importants ou qu'on n'arrive pas à savoir comment les faire faire aux gens, je sais pas.
Ben, c'est une grande question. Alors, juste par rapport à l'approche médicale, à ce niveau-là, c'est même pas du tout de remettre en question le médecin, bien au contraire. En fait, c'est le système dans lequel on a placé ce que représente la santé, parce que le médecin fait ce qu'il a appris et la plupart du temps de manière très experte. Et je veux dire, c'est pas du tout à remettre en question. C'est vraiment la il met la philosophie, et c'est pour ça que je posais un peu à la médecine chinoise tout à l'heure, de ce que représente la santé au-delà de la maladie. Tu parlais de la partie économique. Là aussi, on rentre dans des sujets qui sont un peu inquiétants parce que on parlait du poids tout à l'heure. Sur une étude qui datait de 2014, donc on n'avait pas la même prévalence d'obésité et de surpoids qu'on peut avoir aujourd'hui dans le monde. Et simplement pour te donner un ordre d'idée sur le surcoût lié aux soins associés à l'obésité, c'était 2000 milliards de dollars, 2,8% du PIB mondial. C'était autant que l'alcoolisme, que les accidents, donc à 1 milliard près, entre guillemets. Donc c'était à 100 milliards près, parce que de 2000 ou 2100 milliards. La maladie de Parkinson, en termes de prise en charge, de la même façon, c'est extrêmement important. La maladie d'Alzheimer, les maladies auto-immunes, le cancer, bien évidemment, les maladies cardiovasculaires. On a aujourd'hui un coût associé à ces pathologies qui, pour la plupart, sont des pathologies chroniques, qui, de toute façon, ne peuvent pas être maintenues à long terme. En fait, la démographie est fortement en train d'évoluer. On est en projection à 9,6 milliards de personnes en 2050. Aujourd'hui, c'est revu à la baisse parce qu'effectivement, on voit que de toute façon, on peut pas évoluer comme ça de manière linéaire infiniment. Mais malgré tout, on a une augmentation de population. On a une population qui vieillit de plus en plus. On passe de 500 millions de personnes de plus de 65 ans à une projection d'1,5 milliard sur 2050. On a une espérance de vie qui augmente dans la plupart des pays encore aujourd'hui parce qu'il y a une marge de progression, notamment les pays en développement. L'espérance de vie en bonne santé commence à stagner dans les pays occidentaux, voire à diminuer. En France, tu parlais de la retraite, et ben c'est l'âge de la retraite. C'est-à-dire que c'est à peine 65 ans pour une femme, c'est un peu plus 62 ans pour un homme. Donc en gros, tu es en bonne santé jusqu'à la retraite. Et après, ça devient compliqué. Donc en fait, quand tu prends ces équations, je parle même pas de réchauffement climatique, de perte de biodiversité, parce que ça va être encore plus anxiogène, je vais rester sur ça. Mais parce que je rebondis sur ta question, ta remarque tout à l'heure du coût et autres. De toute façon, on n'a pas de solution. C'est-à-dire que évolution démographique, évolution des prévalences de ces pathologies, vieillissement de la population et changement du mode de vie, ou plus exactement maintien du mode de vie tel qu'on l'a changé il y a quelques décennies, de toute façon, on n'aura pas d'autre choix que de faire évoluer le système, même d'un point de vue économique. Donc la question, c'est de se dire combien de temps on attend et quelle énergie on met en place pour être le plus anticipatif possible. Et ça rejoint les questions écologiques qu'on a sur... encore une fois, on parle souvent d'émissions de gaz à effet de serre, mais on a 9 limites planétaires. Aujourd'hui, on en a dépassé 6. Donc ça veut dire qu'on a déjà dépassé les biocapacités sur au-delà du climat, hein, sur la diversité, sur l'acidification des sols, sur ce qu'on appelle les aérosols et les composés qui sont présents dans les airs, etc. Donc en fait, on se rend compte que on a une urgence considérable à l'échelle de la planète, mais aussi à l'échelle de la santé. Et c'est En fait, c'est tout l'objet du livre que d'essayer de rassembler ces données-là pour apporter une réponse globale et finalement assez simple, parce que, voire simpliste encore une fois, c'est-à-dire que quand on parle de ces produits bruts, de locaux, de saison, tout ce que j'ai fait dans le livre et encore davantage dans celui dont je parlais tout à l'heure qui sortira, c'est d'étayer en fait ce qui nous amène à du bon sens. Donc, ce qui prend un temps fou, c'est juste de prouver ce qui est à la base, quoi. Donc, on a besoin de ça et c'est très bien. Et après, moi, à titre personnel, c'est intellectuellement, je trouve, très stimulant. Mais c'est aussi très rassurant parce que des solutions, il y en a. Qu'il ne s'agit pas de mettre un tableau anxiogène et de se dire que tout est foutu, etc. C'est au contraire de se dire on a tout pour agir, on a bien sûr besoin de décisions collectives, politiques, etc. Ça, c'est certain. Mais à l'échelle de l'individu, de soi-même déjà, on peut faire beaucoup de choses. Et je trouve que c'est là où la notion de responsabilisation est importante, autant pour soi dans sa santé individuelle que pour les impacts qu'on aura à côté. Et si on attend de se dire que il faut que tout le monde le fasse en même temps ou que on va pas le bouger parce que le chinois, l'américain, le suédois ou le sud-africain fera rien, là on est sûr que ça fonctionnera pas. Donc et moi je fais une petite digression sur ces aspects systémiques collectifs, mais parce que pour moi ils sont très liés à notre santé individuelle et à ce que tu évoquais tout à l'heure. Et je pense que si on attend du système médical, mais d'un système de santé publique, etc., de nous faire évoluer à ce niveau-là, peut-être qu'on pourra attendre très longtemps.
Ouais.
Mais ce qui nous appartient, c'est de se dire, bah oui, je vais peut-être faire évoluer mon alimentation. Comme tu le disais tout à l'heure, je vais me mettre à bouger davantage. Je vais respecter un peu mieux mon rythme circadien. Donc, je vais dormir différemment. Et ça, on a quand même un sacré levier, quoi. Donc, c'est hyper, je trouve ça très positif, au contraire.
Ouais, et puis moi je crois beaucoup aussi au fait qu'on et puis c'était étayé parce que pour ceux qui auraient lu qui ont fait un peu de marketing, qui ont lu des livres de Cialdini sur l'influence, la persuasion, la persuasion aussi, etc. J'avais été marqué par un aspect que le marketing a beaucoup utilisé et je vois beaucoup dans les petits panneaux qu'on a dans la rue en disant cette maison est protégée par vidéosurveillance, par tel truc. Et là, d'un coup, les voisins se disent, ah, mais si lui, il a protégé sa maison, bah, nous aussi, on va protéger notre maison parce que ça veut dire qu'il y a peut-être un truc et tout à faire, etc. Mais si on l'inverse dans l'autre sens, si chacun, en fait, ceux qui, en tout cas, qui font des efforts, et moi, je pense que le podcast en fait partie, que ce qu'on fait les uns et les autres sur Instagram, mais ce que tu fais avec ton livre, avec tous les travaux que tu fais, etc. C'est-à-dire que chacun, quand on fait des choses, en fait, ça commence à questionner ceux qui sont autour de nous, en fait, en disant, bah, mais qu'est-ce que t'as fait? Comment t'as changé? Où est-ce que t'as bougé? Etc. Je dis souvent aux gens que j'accompagne, je leur dis, mais quand vous commencez à courir et que les gens autour de vous voient que vous êtes mieux quand vous courez et que vous sentez mieux parce que vous bougez, etc., il y a un moment donné, ils vont finir par vous poser la question. Ils vont finir par, alors je dis pas les coacher, mais en tout cas, ils vont vous demander des conseils. Et je pense que si on arrive à toucher de plus en plus de gens comme ça qui agissent chacun dans leur coin, bah, il y a quand même une machine qui peut se mettre en route. Alors après, de là à toucher tout le monde, ça c'est un autre truc. Mais je pense quand même que, effectivement, quand chacun d'entre nous fait des efforts, il y a un moment donné, par des ricochets, on arrive quand même à montrer à d'autres personnes que c'est possible, qu'on peut évoluer et qu'on n'est pas en plus des ermites, on n'est pas parti habiter en plein milieu de la campagne, etc., faire son jardin, quoi. Je veux dire qu'il y a des solutions, on peut rester dans le monde classique, moderne, etc., et pourtant évoluer.
Bah c'est en fait ça me fait penser à deux choses là, à ce niveau-là. C'est déjà dans le fait de conforter ce que tu évoques. Alors là je parle de la partie alimentaire, mais on a plusieurs publications qui nous montrent que autant d'un point de vue écologique que nutritionnel, les deux facteurs d'influence les plus importants dans le changement, c'est un, les leaders d'opinion, donc ce qu'on va effectivement entendre au sens médiatique et médiatique du terme et les personnes en qui on a confiance, entre guillemets. Et de deux, c'est le cercle de premier niveau de l'entourage. Donc effectivement, si toi tu fais, tu montres, entre guillemets, un exemple, c'est le meilleur moyen pour inciter un premier cercle à changer, qui va en amener un deuxième, etc. Donc en fait, on pense systémique, on pense entre guillemets très grand, mais on voit que souvent l'action, elle est très individuelle, locale, et c'est ça encore une fois qui est rassurant. Et alors le deuxième point, c'était plus sur une petite boutade à ce niveau-là, mais c'est vrai que si t'es déjà hyper athlétique, que tu cours 2h20 au marathon, que tu manges parfaitement bien, que t'as une hygiène de vie irréprochable, la personne qui est à l'opposé, qui te regarde, je suis pas certain qu'elle va se dire,
Non,
OK, bon,
c'est plus un
ça va.
exemple.
Voilà. Donc, il faut que l'écart, si tu veux, soit perçu comme acceptable pour celui qui veut faire le changement. Donc, mais bon, voilà, j'en plaisante, hein, quand je dis ça, mais
Non, mais
je
et je vais te
ouais.
dire un truc, c'est pour ça aussi que sur 1,42 km, j'invite des gens qui nous ressemblent beaucoup les uns aux autres, que j'invite des gens qui ont couru, qui sont bien coureurs, qui ont couru leurs premiers 5 km et à qui ça semblait totalement insurmontable. Certes, j'ai des gens, des athlètes, etc., mais souvent, on a du mal à se reconnaître dans les athlètes de très haut niveau parce qu'en fait, ils ont des modes de fonctionnement qui sont particuliers, puis ils ont un mode de vie, ils ont même si on se rend compte que des fois, il y a quand même dans l'iceberg, je pense notamment à la nutrition, parce qu'on a eu quelques invités, on se rend compte qu'en nutrition, il y a des athlètes qui visent les Jeux Olympiques qui sont pas si calés que ça quand même sur certains domaines et c'est très 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 surprenant. Et on a des épisodes en stock. J'ai fait des épisodes sur le sujet justement qui montraient en fait que ils ont des facultés qui leur ont permis de progresser. Ils ont une faculté à s'entraîner aussi notamment qui est très intéressante, qui est très importante et qui leur a permis de gommer certains défauts qu'ils pouvaient avoir, mais que ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres choses à améliorer sur d'autres domaines. Mais moi, c'est vrai que j'ai invité tout un tas de personnes qui sont pas du tout connues, mais qui, à un moment donné, ont fait un petit changement, un petit point de bascule, où on décide de faire du sport, de changer quelque chose, etc. Et qui montrent en fait que c'est possible. C'est-à-dire que c'est pas des athlètes. Et sans devenir des athlètes, moi, j'ai des gens qui ont couru le marathon en 5h20, 5h30, etc., qui étaient tellement fiers d'eux. Et ça devient accessible en fait comme exemple. Et c'est pour ça que je crois aussi en ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, d'avoir que des gens, des Olympiens, en disant tiens, ils font ça, etc. et tout. Là, on est un petit peu écrasé quand même. Je me méfie moi-même avec mon exemple d'ailleurs, parce que les gens, ils me voient courir tous les jours depuis 1 an et demi, ils me voient autant perdre 30 kilos. Donc souvent, je leur mets une photo pour leur rappeler quand même que l'ancien moi, quoi, il y a 5-6 ans, en disant, gardez quand même, il y a eu des trucs quoi, qu'ont été faits, vous pouvez pas, et les petits pas, en fait, marchent très bien. Mais c'est vrai que c'est un truc sur lequel moi je veille beaucoup et je crois que ça marche en plus dans tout parce que quand on en discute pour la cuisine, quand on en discute pour plein de domaines où parce que en fait j'étais marqué dans ton livre sur des trucs sur les modes de cuisson, cuisiner à la vapeur douce, choisissez vos ustensiles. Je sais que j'ai des influenceurs ou des gens qui sont dans la muscu par exemple. J'ai eu Fitness Smith. Sur un épisode ancien où il avait fait tout un tas de trucs, ça paraissait bizarre aux gens de dire non mais quand vous choisissez une planche à découper, quand vous prenez une poêle, quand vous achetez ça, etc. Regardez quels ingrédients, comment ils sont faits, enfin
Composé.
comment ils sont composés, les couteaux, etc. Moi je sais qu'à la maison on avait changé tous les contenants, on passait à des contenants, on enlevait tous les contenants plastiques, tout un tas de choses comme
Ouais.
ça. Et là je regarde ton livre. Et je vois ça en fait. Et je dis, attends, tu parles des métaux lourds, des additifs, etc., mais aussi des matériaux, de tout ce qui peut, comment dire, se transmettre. Quand ma fille est née aussi, on en a beaucoup parlé de ces histoires-là, des biberons, les biberons en plastique, est-ce qu'il faut les chauffer, enfin, éviter tous ces trucs-là. Mais c'est des petits gestes en fait. Il y a plein de petits gestes, on se rend pas compte, qui finalement sont pas si compliqués que ça à faire et qui pourtant ont un véritable impact, même si on a du mal à s'en rendre compte comme ça quand on se dit ça a l'air de rien quoi. D'ailleurs, entre mettre un Tupperware plastique et une boîte en verre, par exemple, il y a plein de gens ils vont dire oui mais ça change rien. Alors qu'en fait c'est pas le vrai.
Exactement. Alors, et d'ailleurs, c'est pour ça que le petit livre, entre guillemets, fait 400 pages, qu'au lieu d'en faire 1200, parce que si tu prends chacun de ces sujets et que tu veux les étayer un minimum, eh ben, au final, oui, ça demande du développement. Et on en revient toujours à cette vision la plus systémique possible, parce que, encore une fois, quand tu manges T'as fait une ratatouille, et ben ta ratatouille, tu l'as effectivement découpée d'une certaine façon, tu as conservé tes aliments d'une certaine façon, tu les as cuits d'une certaine façon, avec un ustensile d'une certaine façon, d'une certaine composition, et bien sûr que tout ça influence sur ce qu'on va ingérer, donc sur notre santé. Et malheureusement, on a encore une fois, cette vision très, très réductionniste de l'aliment par rapport à sa composition en macro, voire en micronutriments. Quand tu parles des ustensiles, par exemple, souvent, quand on évoque les poêles anti-adhésives, où en fait, aujourd'hui, c'est devenu l'ustensile indispensable pour quasi tout le monde. C'est-à-dire que on n'arrive plus à cuire des œufs sur le plat ou faire une omelette dans une poêle en inox, parce que on s'est habitué à utiliser du téflon qui contient ce qu'on appelle du PTFE, du PFOA, donc des termes un peu barbares, mais qui sont déjà des catastrophes d'un point de vue écologique. Alors le PFOA, on l'a interdit depuis 2020 en France, ça a été le cas avant dans d'autres pays, parce qu'on sait que c'est un cancérogène qui est classé, hein, par le CIRC, donc la structure qui classe les risques de 1 à 4, de 2A, 2B, bon bref, en fait en termes de probabilité de risque, d'estimation de risque vis-à-vis du cancer en général ou de certains cancers. Donc ce composé a été supprimé et remplacé aujourd'hui par du Génix ou par d'autres composés qui amènent exactement au même problème. Tu parlais du plastique, des biberons, où effectivement on a plusieurs études qui nous montrent que la répétition de la température, de chauffer le biberon, de le mettre au lave-vaisselle, etc., crée une migration. Et alors on a interdit les phtalates, après on a dit c'est sans BPA, sans bisphénol A, on a rajouté quoi? Des bisphénols F, des bisphénols S, qui sont tout aussi problématiques que le bisphénol A. Sauf qu'on va te vendre une grosse étiquette en te mettant c'est sans bisphénol A. Et dans ton cas où tu as utilisé des récipients en verre, par exemple, c'est vrai que, encore une fois, ne serait-ce que d'un point de vue écologique et d'un point de vue des contaminants, sur les microplastiques, sur, on parlait des bisphénols, des phtalates, on a toute une série de composés qui sont pas très sympathiques, entre guillemets, qui peuvent migrer, et notamment certains qui sont liposolubles. Donc, quand on garde des plats qui sont des repas, pas des repas, mais des plats au sens qu'on a mijoté, des recettes qui sont riches en graisse, par exemple, on peut avoir une migration plus importante à ce niveau. Donc le fait d'avoir le verre est très intéressant, comme de cuire au four avec du pyrex, c'est-à-dire du verre, et non pas simplement avec du silicone. Là aussi, on pourrait largement parler de ces effets sur le long terme, mais on n'a pas de label qui permet de connaître en fait la qualité des différents silicones qui sont proposés dans les moules. Donc là, je parlais des poêles avec le téflon, des ustensiles avec le plastique. Donc c'est là où effectivement, quand on voit l'environnement alimentaire auquel on est confronté, ça va bien au-delà de l'aliment qu'on va manger. Et donc ça demande parfois une vraie rééducation, parce qu'on a tellement à disposition de solutions de confort, comme tout ce qu'on évoque là, qui fait que on a progressivement, en fait, on s'est orienté vers ce type d'ustensiles, alors que finalement on a d'autres solutions qui demandent peut-être de se réhabituer, par exemple pour l'inox, à cuire effectivement avec un peu plus de matière grasse, d'apprendre à cuire, à chauffer différemment, mais c'est tout à fait faisable. Donc c'est là où on est dans l'éducation au final, plus qu'autre chose, quoi.
Pour finir, parce qu'on est quand même dans un podcast de sport, on n'a pas beaucoup parlé de sport, mais je pense que de toute façon les sportifs ils sont sensibilisés au dessous. Mais tu vois là, j'ai un œil sur mon gravel tout de suite et je suis en train de regarder, j'ai des bidons en plastique dessus, j'ai des dans ma sacoche j'ai des trucs avec des pâtes d'amande qui sont enveloppées dans des plastocs, sur les ravitaillements des fois il y a des trucs. Bon, moi je prends pas de gel, je prends des sticks de miel. Bon, déjà c'est plus naturel, mais n'empêche qu'on a tout un tas de contenants, on a tout un tas, puis on les maltraite, je veux dire. J'ai eu un invité qui me racontait qu'il avait été intoxiqué par l'eau qui était restée dans ses bidons, nettoyage des fois des bidons qui sont mal nettoyés, et puis bon, il y a quand même des bidons en plastoc, hein, la plupart du temps et tout. Je veux dire, c'est difficile à résoudre, hein, quand même, cette histoire-là, de cette équation quand même, parce que si on dit, moi, ma gourde, si je compare le poids de ma gourde en ferraille et le poids de mon bidon sur le vélo, je me dis, ouh là là, sur
c'est
la performance.
Prix des paires de roues.
Ouais, je me dis, ça va devenir compliqué cette histoire-là après. Hein, si voilà, là-dedans quand même. Mais je pense que sur les sportifs, globalement, il y a aussi. Alors, on va faire des épisodes un jour, je le dis, parce qu'on doit faire des épisodes qui sont prévus aussi sur les dents, sur le sucre, sur tout un tas de produits, sur le fait de ce qu'on mange pour justement être performant. Mais où on voit qu'en fait, on se rajoute quand même une sorte de. Comment dire? Des éléments, on se fait du bien par le sport, mais il y a quand même des moments où on se dit, est-ce que ce que je fais dans le sport, ou en tout cas certains aspects qui font, ne rajoute pas une couche finalement qui va dans le mauvais sens, tu vois, une espèce d'équilibre qui n'est pas si facile que ça à trouver.
Non, non, tu as tout à fait raison. Après, c'est vrai que c'est aussi de se dire qu'est-ce que je peux faire à mon échelle, en se disant il y a un idéal théorique et effectivement que je peux pas atteindre sur tous les critères et qui fait que bah j'aurais peut-être ma barre d'amande dans un papier ou j'aurais peut-être un contenant qui sera pas idéal ou alors effectivement j'accepte un sacrifice, tu parlais du poids ou de un truc qui sera moins fonctionnel, etc. Et parfois au risque d'être perçu comme marginal en fait par rapport à la masse de population. Donc ça amène à une autre question de se dire l'aspect social fait que finalement je suis le mouvement aussi au risque d'être perçu un peu différemment. Mais finalement, je dirais que si on est sportif, on a peut-être ces incohérences qui apparaissent. Mais si on fait d'autres loisirs, tu vois, dans d'autres aspects de la vie, finalement, on aura aussi notre lot de contraintes. Donc, je sais pas si le sport est spécifiquement concerné, mais ça me fait penser aussi à cette notion que j'évoque souvent et à laquelle, quand tu parlais de ton exemple sur la marche et autres, je dis souvent que le sportif n'existe pas. C'est-à-dire que c'est un individu à qui on va rajouter un facteur de stress qui est le mouvement musculaire, mais qui a sa vie professionnelle, sa vie émotionnelle, personnelle, son alimentation, son sommeil, son exposition aux contaminants et autres. Et en fait, ça amène au sujet de la planification de l'entraînement, de la personnalisation, parce que un même plan d'entraînement chez un même individu, en fonction que cet individu soit en forme, mange bio à la campagne, dorme bien, tu vois, un boulot tranquille, et la même personne qui soit divorcée, soit papa, maman, et qui se réveille 5 fois dans la nuit, qui crée sa boîte, etc., qui mange un peu, entre guillemets, n'importe comment, qui est en ville et est exposé à plein de contaminants, et ben, le stimulus de l'activité physique n'aura absolument pas le même effet, alors qu'on est chez le même individu. Donc c'est là où on voit que en fait l'activité physique ou le sport, si on parle de la performance, c'est juste un facteur de stress possible supplémentaire dans l'environnement de l'individu. Et ça amène aussi au sujet de l'approche pluridisciplinaire on parlait des athlètes de haut niveau tout à l'heure ou des performeurs, c'est-à-dire aujourd'hui qui est capable en fait d'avoir autour de lui des professionnels qui ont une vision transverse en fait de l'individu, parce que chaque professionnel va regarder le kiné sur son approche, le nutritionniste de l'autre, le médecin, le préparateur physique, mental, etc. Mais c'est vrai qu'au final c'est quand même l'entraîneur qui a une peut-être la meilleure connaissance en fait de l'homme ou de la femme, c'est-à-dire de l'individu, et qui le voit évoluer dans son environnement et qui se dit bah tiens, peut-être qu'effectivement cette planification d'entraînement dans cette période de vie elle est pas cohérente, et c'est intéressant parce que là aussi c'est pas forcément ce qu'on retrouve tout le temps. Il y en a qui le font très bien et il y en a qui ont malheureusement encore une vision très très segmentée, quoi.
Et bien, c'est un sujet qui est très intéressant. Je te remercie beaucoup pour le temps passé sur ces. On pourrait y passer des heures et des heures. De toute façon, je répète, le livre, c'est un magnifique pavé. avec une préface de Thierry Marx qui pointe des choses. On parlait tout à l'heure du coût sur l'histoire, en disant en fait qu'il y a des choses qu'on paye 3 fois, notamment entre le coût de la santé, le coût des sols pollués, le coût du monde agricole qu'il faut aider, etc. Enfin, la l'accumulation des choses, etc., qui finalement montre que on est dans un système qui est pas tenable sous plein d'aspects. Mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est finalement dans ton livre, c'est qu'il y a des il y a beaucoup de c'est bien structuré en fait, avec des grands des points, etc. Ceux qui cherchent des solutions vont pouvoir les trouver. Bien entendu, ça demande, je pense, aussi beaucoup de curiosité, hein, pour aller creuser les différents éléments, etc. Mais ne serait-ce que ceux qui prendront les 20 clés de l'alimentation de l'Homo Conscientus, donc à lire pour qu'on comprenne de quoi on parle. Je pense que déjà que si on applique les 20, les 20 points, moi j'ai regardé tout à l'heure par curiosité, je me suis dit mais combien j'en ai appliqué là-dedans ? Et j'étais assez content quand même. Tu vois, je me suis dit.
Et alors ? Ça donne quoi ?
Enfin, attends, bon, des fois la conscience c'est de l'alimentation, c'est avec mes carrés de chocolat, tu vois, je suis. Je fais un petit clin d'œil à une autre sweetreuse parce qu'on a parlé des protéines, il faudrait qu'on parle du chocolat et de l'impact du cacao, du chocolat sur la planète. Parce que vu la quantité de chocolat que je mange, des fois je regarde la tablette, je regarde leurs trucs, je me dis oh là là, attends, mais qu'est-ce que tu fais? Mais la mastication, les aliments bruts, le végétal, tu vois, etc., c'est des choses sur lesquelles même le brut, tu vois, et je me regarde dans la liste des trucs, je me dis, tu vois, même la cuisson douce, tout, on avait passé à la cuisson douce il y a 2-3 ans avec ma femme, on était passé là-dessus. Je me dis, bon, j'ai quand même fait un gros chemin parce que je me rends compte de là où j'étais et je me rends compte, en fait, de tout ce que j'ai fait. Donc, ça m'a rassuré, en fait, tu vois, sur l'histoire. mais je pense que pour ceux qui se posent des questions, ça vaut vraiment le coup d'aller creuser, de voir un petit peu les choses, etc. Et puis qu'on sort vraiment de cette approche-là qu'on parlait de très réductionniste, de dire, est-ce qu'il faut ça? Est-ce qu'il faut supprimer le gluten? Est-ce qu'il faut supprimer le lait? Est-ce qu'il faut ça, 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 etc. C'est vraiment une vision très, très large qui est vraiment très intéressante. Et puis bon, les gens vont découvrir que j'aime bien le titre, les arbres à cornflakes n'existent pas.
Ou les fontaines à coca.
Ouais, les arbres à pâtes, etc. Enfin, tous ces trucs qui n'existent pas. Non, puis tu parles aussi des calories vides, tu parles aussi de boire de l'eau. Hein, combien de calories on boit aussi. Moi, j'en parle tellement de ce truc-là. C'est un truc qui a changé ma vie aussi, de boire de l'eau. Ce qui paraît tellement hallucinant quand même, de dire ça, hein, de dire je bois de l'eau et ça paraît bête comme ça. Et pourtant, ça fait partie de la base. Je te remercie beaucoup pour le temps passé avec moi. Bien entendu, je recommande à tout le monde de te suivre. Alors, le livre, on le trouve dans toutes les librairies. Hein, c'est publié chez Domaine du Possible Actes Sud. Donc, c'est un gros éditeur, etc. Le livre suivant, il sort quand? En juin, tu m'as dit?
Oui, alors il devait sortir mi-mai. Et là, ça sera probablement début juin chez Duno. Et qui s'appelle donc le traité de la pleine santé par l'alimentation durable. Et là, c'est voilà, un peu ambitieux, mais bon, après 10 ans d'écriture, je pense que voilà, j'ose ce titre-là avec l'éditeur, mais en tout cas, c'est pareil, c'est deux livres qui sont disponibles un petit peu partout, bah, l'autre prochainement, mais il sera facilement accessible. Et merci beaucoup pour ton retour sur le livre, ça peut que me faire plaisir parce que c'est. Déjà, comme tu le dis, t'es peut-être le meilleur exemple à ce niveau-là, que c'est pas insurmontable, et bien au contraire, quand tu parlais des 20 clés pratiques, au début, pour tout te dire, je voulais les mettre au début du livre, pour dire, bah voilà, au moins vous avez ça. Et si vous avez envie de creuser un peu plus loin, vous prenez le développement. Mais bon, avec l'éditeur, on a préféré. Bah, au final, c'est qu'à la fin. Mais juste, en fait, et comme ton exemple de l'eau, de se dire que on en est arrivé finalement à un besoin d'étayer des sujets ou des réflexes de bon sens. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Pour ton retour, ça me fait plaisir, quoi.
Eh ben, écoute. En tout cas, je mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Je mets les liens aussi pour suivre site internet, réseaux sociaux. T'es sur les réseaux sociaux?
Ouais, alors à la base, moi je suis pas trop. J'y étais il y a longtemps, et puis j'ai eu pas mal de pépins de santé, etc. Je m'en suis éloigné. J'y reviens un petit peu, que ce soit sur Facebook ou Instagram, ne serait-ce que pour les actualités. Et puis j'ai un blog qui s'appelle santé-nutrition.com. Là, c'est tout est une série d'articles, etc. Mais on peut pas dire que je suis un très très consommateur de réseaux sociaux, mais j'essaie de m'y mettre un minimum, donc il y a toujours quelques infos.
Voilà. Et bah écoute, je mettrai en tout cas tous les liens dans les notes de l'épisode sur le site pour qu'on puisse te suivre, te retrouver, te contacter pour ceux qui voudront acheter les livres aussi, les livres, parce que bon, c'est pas le seul, hein, il y en avait avant, il y en a après, on a compris. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je dis vraiment pour le travail, parce que c'est vrai d'avoir cette vision large, etc. C'est super intéressant. Je comprends que c'est pris du temps. C'est vrai que quand j'ai vu au début, j'ai dit. Dit waouh sur l'œuvre globale. On en parlait il y a pas très longtemps dans la minute perf en disant mais les chercheurs on passe des années à faire des études à faire des recherches sur les sujets etc. d'aller creuser parce qu'il faut vraiment être la passion pour aller chercher toutes ces informations là pour faire travail d'une vie hein, sur certaines choses etc. Et c'est un peu comme ça que je le vois en fait quand tu me dis le volume, le temps, etc. Mais je pense que c'est vraiment, pour ceux qui veulent vraiment creuser le truc, et c'est le cas de nos auditeurs, c'est vraiment un livre à rajouter dans sa bibliothèque. Et je pense que la discussion aussi a montré hein, que il faut vraiment s'éloigner de ces histoires juste de la calorie, du macronutriment, du micronutriment, que c'est tellement plus large et tellement plus incroyable aussi, j'ai envie de dire. Moi, l'histoire de la mitochondrie, moi, tu vois, moi, j'étais resté sur la mitochondrie, il faut que je cours doucement pour que mes mitochondries se développent, mais j'ai pas du tout le reste.
Bah, entre autres, il y a d'autres solutions aussi, mais ça en fait partie.
Voilà, donc voilà, donc écoutez, ça vous donne une raison de plus de découvrir ce livre. En tout cas, Anthony, je te remercie beaucoup. Bien entendu, je mets donc une fois de plus les liens dans les notes de l'épisode, et puis on se retrouve très bientôt pour un autre épisode. Bon, je vous dis pas trop l'invité, parce que j'ai un petit doute sur l'ordre sur lequel on va publier. Mais en tout cas, il y a des rebonds. Ça fait des rebonds. Tout se correspond, etc. Et tout. Et puis, allez sur Kimet 42 aussi. Vous avez des rebonds par rapport à certains sujets, qui renforcent un petit peu aussi ce qu'on vient de dire. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!
Merci beaucoup. Allez, à bientôt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.